Charles Berberian, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre album « Une éducation orientale », premier album à apparaître aux éditions Casterman. Si on regardait un petit peu votre parcours, Bagdad en 59, ça vous fait quand même déjà 64 ans maintenant au compteur. Oui. Vous avez quelques années à Beyrouth, on va y revenir. Et en 75, vous partez sur la France. Et depuis lors, pas mal de voyages, notamment le premier en 2005, où vous retournez un peu au pays, dirons-nous. Alors, peut-on dire que vous êtes français selon l'état civil, mais libanais de cœur, ou plus exactement beyrouthain?
C'est une question qui est compliquée. Alors moi, j'essaie de... Quand on me demande d'où tu viens, et c'est la question qui m'est posée au début du livre, à peu près, j'essaie de répondre de la manière la plus simple qui soit. Donc je dis que je viens de Paris, parce que j'ai atterri à quelques heures de Paris. Après, d'une manière plus... existentielle, je viens du ventre de ma mère, c'est là l'endroit que je peux identifier le plus, et qui me manque depuis qu'elle est plus là. Après, je suis bien conscient que le cordon ombilical doit être rompu, mais dans mon cas, il a été rompu assez tôt. Puisque d'abord, à l'époque où je partageais ma vie avec mes parents en Irak, mes parents s'occupaient pas tellement ni de mon frère ni de moi. Mon frère qui était déjà en pension au Liban, parce qu'ils avaient une vie sociale extrêmement importante et que c'était surtout la gouvernante qui s'occupait de moi, ni ma mère ni mon père. Donc d'où je viens, et l'autre réponse qui va bien avec le fait que je viens du ventre de ma mère, c'est que je viens de la mer, je viens de la Méditerranée en fait. C'est le point commun entre les différentes personnes qui constituent ma famille proche, entre Chypre, Benghazi en Libye et Beyrouth. Et même si Istanbul n'est pas sur la Méditerranée, c'est pas très loin. Donc on veut toujours attacher ses racines à la terre, mais
ce serait plutôt à la mer.
La mer. Ouais.
Alors dans votre ouvrage, il y a pas mal de faits historiques. Je suppose que vous avez creusé un petit peu dans les livres d'histoire, notamment en fait quand on voit les nombreux acteurs qui ont voulu partager Beyrouth. J'ai eu l'impression en fait de nous trouver à la répartition de l'Afrique coloniale, quand même, où chacun prend son petit morceau sur le plan de terre. Pour faire ces recherches, vous avez été potassé dans les ouvrages historiques, est-ce que vous avez été aussi dans les photos que vous avez pu récupérer, comment ça s'est passé pour cet aspect, je vous dis, historique?
Oui, heureusement qu'il y a maintenant pas mal de livres d'histoire dont on peut disposer. J'ai très peu de témoignages familiaux, même pour ainsi dire pas du tout. Donc tout ce que je peux puiser à l'extérieur de l'histoire intrafamiliale, à l'extérieur de l'histoire familiale pour nourrir l'histoire intrafamiliale, je vais chercher. Qu'est-ce qui motive les déplacements des uns des autres, la migration des uns et des autres. J'ai lu des livres sur le découpage de la ligne Sykes-Picot. J'ai lu des livres concernant l'histoire de Beyrouth.
Vous en faites mention, hein, notamment l'attaque du bus avril 1975.
Ça, c'est des documents du quotidien francophone local, L'Orient le Jour, que j'avais récupéré déjà à l'époque, que j'avais gardé. Par exemple, il y a Samir Kassir, qui est un journaliste très connu, qui a écrit un livre sur l'histoire de Beyrouth. Fawaz Straboussi, qui a écrit aussi un livre d'histoire sur le Liban. un livre anglais, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui parle de la de Sykes et Picot.
Ouais. Et alors dans la partie autobiographique, dirons-nous, est-ce que vous êtes collé à une réalité ou au contraire elle est plus rêvée, romancée du style des lunettes qui.
Oui. Ouais. disons que je suis acteur et témoin, vu mon jeune âge, beaucoup plus témoin qu'acteur, et même quand je retourne à Beyrouth à partir de 2005, je suis plus témoin qu'acteur finalement. La seule action que j'ai, c'est de raconter ce que je vois, mais c'est à travers mon prisme, donc il y a forcément interprétation, et puis peut-être aussi une manière de voir les choses qui est biaisée ou orientée pour reprendre par un jeu de mots le titre Une éducation orientale. J'essaye au maximum d'être le plus près possible de ce que j'ai ressenti et de ce que je vois, et pas trop pontifier ou pas trop partir dans les théories politico machin. Enfin, si, bon, je dis à l'époque de Sykes-Picot, c'est des poivrons qui décident de l'avenir de toute la région, mais c'est un fait en même temps. Ça, je veux dire la blague qu'on raconte sur Churchill et sa manière de préparer son dry martini ou je sais pas, enfin bon, bref, peu importe, on est toujours un petit peu orienté dans sa manière de voir les choses, donc j'essaye de minimiser les dégâts, mais pour que le lecteur ou la lectrice ne soit pas dupe, j'ai mis cette série de photos à la fin pour qu'on voit bien ma part d'interprétation à travers le dessin. On voit que j'ai dessiné mes parents ou mes grands-parents d'une certaine manière, et que ça correspond.
Ils le disent d'ailleurs.
Oui, voilà. Je leur donne la parole à la fin.
Alors je trouve que, outre vos dessins, il y a quand même aussi de beaux commentaires, de belles réflexion, remonter les souvenirs ou les rues, c'est le même mouvement, le plan de ville ou le labyrinthe de la mémoire, c'est le même jeu d'imbrication. C'est beau comme image.
Merci. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Ouais, le cerveau à ces mêmes ramifications et organisations que peuvent avoir les rues dans une ville, ouais, pour remonter les souvenirs.
Alors, bon, donc comme on a dit, vous avez fait souvent des allers-retours. Est-ce que Beyrouth continue de changer? Enfin, je veux dire, on est quand même loin, bien entendu, des cinémas érotiques, de la place des Martyrs et de la rue des Putes. Mais encore maintenant, est-ce que vous voyez cette évolution? Et est-ce que vous la captez? Notamment, je ne sais pas, est-ce que vous faites des photos quand vous passez ou des croquis? Comment ça se passe?
Des photos, des croquis, mais c'est une ville qui bouge tout le temps parce qu'elle est, ne serait-ce que parce qu'elle est aux mains des entrepreneurs qui ne perdent pas une seconde pour reconstruire. Bon, c'est vrai que la ville a été partiellement détruite ou amochée par l'explosion du port du 4 août 2020.
En 2020, ouais.
Et donc, tout de suite, ça a reconstruit derrière. Et la place des Martyrs, cette fameuse place, elle est en perpétuelle évolution parce que les entrepreneurs ont peur du vide et que s'il n'y avait pas besoin d'un espace pour garer les voitures, eh ben, ça ferait longtemps que la place des Martyrs serait comblée par des immeubles.
Alors, au cours des 160 pages, vous allez nous faire découvrir le Hage, ce bordel ambiant. D'aucuns diraient un enfer, non?
Rage. Oui, c'est le brouhaha d'une ville. Hein. C'est ce que connaissent tous les centres urbains du monde. Ça fait partie de cette caractéristique d'une ville extrêmement urbanisée où la voiture est roi. Mais la rage A, c'est aussi cette manifestation du chaos et de la manière qu'ont les Libanais de faire du chaos un fonctionnement à part entière, c'est-à-dire que c'est devenu une manière de fonctionner.
C'est vrai qu'avec toutes les catastrophes que Beyrouth a vécues, on pourrait dire que le pire est déjà arrivé. Hein.
Mais à chaque fois, on pense que c'est le pire. Et en rigolant, je dis, c'est comme les présentateurs télé. On pense qu'on a touché le fond avec le présentateur. Et puis, il en arrive un autre qui est pire. C'est à chaque fois un coup de semonce qui anesthésie pendant un moment les Libanais qui essayent de se maintenir, de remonter. Et puis finalement, quand on n'est pas mort, on continue à vivre. Et de l'extérieur, les gens appellent ça de la résilience, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est vraiment
un instinct de survie.
Un hérisson qui est paralysé devant les phares d'une bagnole. Et puis la voiture est passée. L'hérisson n'est pas mort, et donc il retrouve ses esprits, et puis il se remet à essayer de trouver un endroit où il sera plus en sécurité, où il pourra trouver à manger et élever une famille. C'est un peu ce truc-là. Sauf qu'au Liban, c'est pas seulement des voitures, c'est des chars d'assaut, c'est des drones, c'est des avions, c'est tout ça, quoi. Et que la peur est aussi un sentiment maintenant qui est intégré au fonctionnement.
Alors c'est vrai que vous dites le passé est douloureux et l'avenir fait peur. C'est un peu angoissant, ça.
Alors ça, pour le coup, j'ai l'impression qu'on en est tous là. Hein. C'est pas la peine d'être Libanais. On est tous... c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que... après, heureusement qu'il y a... Il y a des manières de rêver, il y a des manières d'inventer l'avenir qui n'existe pas tant qu'on n'y est pas. C'est que l'avenir, c'est toujours le présent finalement. Mmh. Et quand j'ai fait mon album sur Charlotte Perriand au Japon il y a quelque temps, j'ai adoré passer du temps en compagnie de cette personne qui n'était plus là, mais j'avais son autobiographie à ma disposition. Mais quand on dessine, on est avec les gens qu'on dessine. C'est aussi, pour moi, le bonheur de me lancer dans un livre comme une éducation orientale, c'est que je peux passer du temps avec des gens qui ne sont plus là. Bon, bref, pour revenir à Charlotte Perriand, en 1940, elle est au Japon, c'est la guerre partout, on pense qu'il n'y a plus d'avenir, et puis elle invente l'avenir, mais d'une manière totalement pragmatique, c'est-à-dire qu'elle invente des nouveaux mobiliers, une nouvelle manière de concevoir ces mobiliers pour vivre autrement. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, elle, à l'âge de 40 ans, elle a sa fille, elle se marie et elle tombe enceinte et elle a sa fille à l'âge de 40 ans, quoi. Mmh. Donc ça, c'est un exemple, c'est-à-dire que l'avenir fait toujours peur, mais c'est à nous de l'inventer.
Alors, dans votre ouvrage, on parle beaucoup de la famille, qui est quand même assez essentielle pour vous. Il y a bien entendu vos parents, il y a.
Oui.
Et puis, bon, il y a votre frère Alain, qui occupe une grande place dans votre cœur, dans vos souvenirs. C'est lui qui vous a donné cet amour du cinéma?
Oui, totalement, ouais. Alain a été un guide pour moi, bon, 6 ans de différence en sa faveur. Ou en la mienne. En tout cas, il est plus âgé. Il était plus âgé de moins de 6 ans.
Il nous a quittés il y a 6 ans déjà.
Ouais. Et bah, c'est l'année, cette année-ci, où je rejoins mon frère, où on a le même âge, à l'âge où il est mort. Oui, ça a été un guide. Il m'a ouvert à la musique, il m'a ouvert au cinéma. La bande dessinée, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai...
C'était les comics américains.
Ouais, c'était les comics américains. C'était pas du tout son truc, ça l'a jamais été. Et moi, quand je découvre Tintin, C'est pas un choc esthétique. Entre temps, j'ai découvert Lucky Luke, même Valardi, enfin Jerry Spring. Et moi, j'étais plus Spirou du coup. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça dans les fratries, c'est-à-dire qu'on essaye d'occuper un terrain que l'autre n'occupe pas, pour que ça soit pas la guerre justement de territoire. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et du coup, c'est pareil pour le cinéma. Ah, tu fais de la bande dessinée, tu veux pas faire du cinéma? Ben non. Non, ça c'est le terrain de mon frère. Mais par contre, j'ai un amour énorme pour le cinéma. Et j'aime beaucoup les films qu'a réalisé mon frère, parce que j'aime beaucoup sa manière de filmer. J'aime beaucoup cette humilité qu'il avait par rapport au sujet et sa manière de servir l'humour, par exemple, dans des films comme L'Enquête Corse ou Le Boulet, et bien sûr La Cité de la Peur, dont je parle dans ce film.
Quelle est la place de Blueberry dans votre création? Est-ce que, si j'ai bien noté, vous mettez quand même quelques couvertures, Général Tête Jaune, oui. Et puis Chihuahua Pearl.
C'est la bande dessinée qui est, de ma génération par rapport à mon frère. C'est Pilote, en fait. Et Blueberry, c'est le western un peu post-spaghetti. Complètement réinterprété par Charlier et Giraud. Et en 72-73, Blueberry, c'est aussi l'anti-Tintin, anti-Linclair, beaucoup plus en phase avec le cinéma que je peux voir à l'époque, notamment la Horde Sauvage de Sam Peckinpah. Mais aussi Giraud modèle son personnage après Jean-Paul Belmondo. Donc il y a toute une modernité qui fait que Blueberry, ça devient en plus c'est un personnage qui est à la fois militaire mais anti-militariste. C'est quelqu'un qui est sous les ordres, mais contre la hiérarchie, qui s'affranchit de cette hiérarchie, qui s'affranchit même de ses racines qui le poussent à être normalement raciste, puisqu'il est né au sud des États-Unis. Donc ça correspond tout à fait à ce que je suis en train de vivre au Liban, c'est-à-dire m'affranchir de la discipline des jésuites, ne pas tomber dans le piège.
Ça, vous dessinez aussi.
Oui, je passe mes nerfs.
Vous êtes le dessinateur, mais vous êtes aussi musicien. Et je me suis rendu compte en préparant cette rencontre que vous aviez sorti avec Marcello Giuliani un album en 2019. C'était Tout pour le mieux. Et donc j'ai écouté ces 11 titres, de même que votre reprise de Carole King aussi, dans un bon accent américain quand même. C'est bon. Merci. Je me suis demandé, vous qui êtes quand même aussi des dessinateurs, pourquoi vous n'auriez pas fait une BD avec cette ambiance, cet accompagnement musical, style QR code? Vous auriez fait appel éventuellement à Charbel et au Fadi pour le mettre en musique, entre guillemets.
C'est vrai que c'était, en l'occurrence, c'était pas la peine de faire du QR code. Il suffit d'aller sur Bandcamp et d'écouter l'album de Charbel et Fadi qui s'appelle Enfin la nuit, et qui m'a servi de musique inspirante pour dessiner, pour accompagner le dessin de toute la dernière partie de l'album. Et puis l'influence de la musique, c'est plutôt porté sur la manière d'aborder le dessin et la couleur dans ce livre. C'est-à-dire que quand on écoute un album de musique, les arrangements changent en fonction des chansons et en fonction de ce que veut exprimer chaque chanson. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose dans cet album et changer de technique d'ancrage ou de mise en couleur en fonction de ce que je veux exprimer et en fonction du moment que je veux dessiner dans cette histoire. Donc il y a une espèce de parallélisme avec mon expérience de la chanson, une espèce de transposition comme ça qui m'a accompagné aussi de manière formelle, en tout cas graphique, dans le fait d'aborder le dessin et la couleur comme si c'était de la musique et des arrangements, quoi.
Alors, une dernière question qui concerne la boutade de Charbel à propos de Dali. Vous avez trouvé l'origine
Oui, c'est ce que je marque à la fin. C'est Charbel qui m'a dit, oui, en fait, cette phrase, cet aphorisme est de Karl Charot, qui est un architecte urbaniste et pamphlétaire d'origine libano-irakienne.
Et donc, on peut lire, donc, quand Dali a laissé tomber ses délires surréalistes, les hommes politiques de ce pays ont pris le relais.
Oui.
Une belle clôture Merci en tout cas.
Merci à vous.
Et donc on rappelle Une éducation orientale sortie aux éditions Castorman. Merci.
Oui. Merci.